Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejetez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h où on retrouvera Christophe Lamarre. À suivre, là, dans quelques instants, Eva Rock pour son zapping du lendemain, spécial retour en enfance, et Bertrand Chamerois pour son écran de veille, spécial théâtre. Notre invitée culture, c'est la youtubeuse Léna Situation. Elle cumule des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle sort un guide pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime et oui à la positivité. On est d'accord avec elle. Et puis, dans les indispensables, Laurent Mariotte va rendre hommage à la cuisine pleine d'acidité de Pierre Troisgros, et Angèle Châtelier va nous faire découvrir un artiste qui sort un album plein d'amour. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bertrand Chamerois, vous êtes là, bonjour.
Je suis là, bonjour.
Content de vous retrouver tous les deux, c'est l'instant comme chaque jour de votre écran de veille. On commence par vous Bertrand, qu'est-ce qui a retenu votre attention hier ?
Eh bien, c'est le Bedos Gate, ou plutôt son traitement médiatique. Tout a commencé hier très tôt le matin avec la publication par Nicolas Bedos sur Instagram d'un texte exhortant à notamment arrêter. Arrêter tout, tout. Les masques, les confinements et avancer. Vivre à fond, tomber malade, aller au restaurant, vivre, quitte à en mourir. La suite, vous la connaissez, la machine s'est emballée des chaînes info au talk du soir. Tout le monde en a parlé toute la journée. Seuls Equidia et Gulli ne s'en sont pas fait l'écho. Pour le reste, toutes les émissions ont demandé des réactions sur ce texte à la terre entière. Médecins, épidémiologistes, acteurs, chanteurs, animateurs, tourneurs, fraiseurs et j'en passe. Mais le premier à avoir dégainé sur le sujet, c'est Pascal Praud sur son plateau de CNews, il était 9h43.
On arrête d'arrêter, on vit, on aime, on a de la fièvre, on avance, on se retire de la zone grise, ce n'est pas la couleur de nos cœurs.
L'heure des pros muets en grande librairie avec un Pascal Praud reconverti en François Bunel, louant un texte, je cite, « formidable, émouvant, intelligent ». Écoutez-le lire la fin du texte, il est tellement pénétré par les mots, on dirait qu'il vient de déclamer une œuvre de la Pléiade.
Vivons à fond. Embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons. La vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons. Nicolas Bedos. Ben moi, je trouve ce texte sublime.
Oui, oui.
Et je trouve que c'est le texte le plus intelligent que j'ai entendu depuis des semaines. Et je voudrais vraiment que les hommes politiques s'en inspirent.
Qu'il s'en inspira, commedia dell'arte. Mais ce que je préfère, c'est quand même quand Pascal Praud lance le Nicolas Bedos final. C'est très théâtral, ça sonne comme s'il avait dit André Malraux. Quelques tweets et articles plus tard, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a réagi au texte de Nicolas Bedos.
Et puis, sur le grand sujet presque philosophique de savoir s'il faut vivre quitte à en mourir, je pourrais comprendre ce type de réflexion, c'est l'emporter des conséquences sur sa seule santé. On ne peut pas imposer aux gens de prendre soin d'eux malgré eux, mais on peut imposer aux gens de prendre soin des autres malgré eux.
Et vous le savez, l'heure des pros, c'est deux émissions, une le matin, l'autre le soir. Et lors du deuxième service, la polémiste Elisabeth Lévy a réagi à la réaction d'Olivier Véran en ressortant son couplet favori, le fameux « on peut plus rien dire ».
Mais surtout, c'est le chantage moral. Qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Dans la période actuelle, on n'a pas le droit de parler comme ça. Donc, en somme, nous sommes en dictature.
Ah oui.
Une dictature, mais ouais, c'est quoi cette époque et ce pays là, ils ont raison, on peut plus rien faire, on doit mettre une ceinture en bagnole, s'arrêter au feu rouge, on peut plus fumer des gauloises dans la gueule des chiens, et maintenant on peut plus faire la chenille dans les EHPAD et boire des coups en terrasse. Non mais on est où là? Dans une dictature, qu'elle vous dit? Non, c'est pas ça une dictature, Elisabeth. Une dictature, comme dirait OSS 117, c'est...
Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature.
OSS 117, dont le troisième volet sortira en février prochain, un opus réalisé par Nicolas Bedos et dont le slogan est « Le monde a changé, sauf lui, ça ne s'invente pas ». Et je précise qu'il y a quelques minutes, Nicolas Bedos a publié un autre message dans lequel il explique ne pas être ministre de la Santé mais auteur et revendique le droit de pouvoir penser différemment, débattre et même se tromper. On attend donc maintenant les réactions à cette réaction aux réactions.
Ah oui, ça peut vraiment tenir tout le week-end, ça. Bertrand, vous suivrez ça. Vous avez suivi ça, Eva, ça vous a fait marrer.
Ah bah oui, évidemment, évidemment.
Alors, Eva, vous, comme d'habitude, vous avez un temps d'avance. Vous savez exactement ce qu'il faut voir, non pas ce soir, mais même pendant tout le week-end.
Mais oui.
Le thème du jour.
C'est tout pour les enfants. C'est un week-end vraiment placé sous le signe de l'enfance et de la famille sur vos écrans, sur France.tv, pour commencer avec un programme génial destiné aux petits et alors à nous aussi. Les histoires de mots, c'est le nom de cette pastille, nous racontent l'origine de mots courants comme le mot Pantalon. On est au XVIe siècle. Les habitants de Venise pensaient être protégés par un saint appelé Saint Pantaleone. Les Vénitiens étaient d'ailleurs considérés comme radins et surnommés donc les Pantalones. Titre qu'un comédien a utilisé pour en faire un spectacle à succès. Et ce spectacle, le voilà d'ailleurs en représentation à la cour du roi de France.
Henri III découvre Pantalone et trouve le costume si drôle, si original, qu'il ordonne à ses couturiers de lui en confectionner un. En hommage à Pantalone, on appelle alors ce nouveau vêtement le pantalon.
En 3 minutes, vous allez, vous et vos enfants, apprendre des tas d'histoires et des tas de mots. Le mot rail, sarbacane, mais aussi épinard. Et souvent, quand on dit épinard, ce sont un peu les souvenirs de cantine qui reviennent à la surface. Souvenirs rarement délicieux. La journaliste Valérie Simonet en avait ras-le-bol d'entendre ses enfants se plaindre des repas pris à l'école. Alors pendant un mois, elle a pris une grande décision. Elle a mangé le même menu que ses rejetons.
Elles sont trop cuites, les coquillettes. Elles sont coloriées sauce tomate. Je suis en train de m'étouffer. Du jambon industriel. Hein. Je vais faire glisser le tout.
Alors, expérience concluante, elle est d'accord avec ses enfants, c'est absolument dégueulasse. Et donc, elle a mené une grande enquête sur les cantines. Et au cours de son enquête, elle rencontre notamment Danielle Casanova, adjointe au maire de Marseille jusqu'en 2020, en charge de l'éducation et donc des cantines où vont les enfants de la journaliste. Petite question à l'adjointe et écoutez bien la réponse quelque peu embarrassée de cette dernière.
La matière brute en fait, qu'on met dans le plateau, on est à 1,78€. Est-ce que vous pensez qu'à ce prix-là, on peut faire quelque chose de qualité ?
Écoutez, apparemment oui, puisque les enfants mangent des aliments qui sont contrôlés et apparemment nos exigences sont respectées.
Voilà, apparemment, oui, non, je pense que c'est non. Surtout, excellent reportage intitulé « Il y avait quoi à la cantine ?» proposé par LCP Public Sénat, c'est samedi, et qui prouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot du côté des assiettes de nos bambins. Des enfants qui sont un peu tirés l'oreille quand il s'agit de venir prendre le petit-déj avant de partir à l'école. C'est le cas de l'aîné, de Phil et Claire, les héros de la série Modern Family.
Les enfants, descendez, c'est l'heure !
Pourquoi vous m'envoyez pas un texto au lieu d'hurler ? Ça irait beaucoup plus vite et ce serait plus sympa.
Je t'ai déjà dit non, il me semble. Et il n'est pas question que tu sortes habillée comme ça.
Je vois pas pourquoi.
Chérie, tu n'as aucun commentaire à faire sur la jupe que porte ta fille.
Ta jupe ? Oh ouais, elle est très jolie, j'aime bien.
Merci.
Non, cette jupe est beaucoup trop courte. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es une fille. Tout le monde est au courant.
Et oui, sujet d'actualité, hein, même sur Énergie 12 qui rediffuse dès demain cette formidable série américaine. L'occasion de retrouver les autres personnages emblématiques, Jay et Gloria ou encore Mitchell et Cameron. C'est drôle, incisif, ça reflète assez bien les problématiques liées à la famille. Et pour la petite histoire, sachez d'ailleurs que c'est une série française qui a inspiré les auteurs de Modern Family. En l'occurrence, Fais pas ci, fais pas ça. Donc je récapitule, Philippe, les histoires de mots sont à déguster sur France.tv. La cantine, pas bonne à goûter, hein. C'est sur LCP Public Sénat samedi à 21h. Et les premiers épisodes de Modern Family sont à dévorer sur Énergie 12 samedi à 21h05.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand. On se retrouve lundi dans l'émission. Je ne sais pas si on se retrouve à la cantine, mais on se retrouve dans Culture Média aux alentours de 10h.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Léna Situation.
Bonjour.
Plaisir d'être avec vous en direct sur Europe 1 Situation. C'est évidemment un pseudonyme, votre vrai nom c'est Léna Mafouf. Vous êtes une youtubeuse, je précise pour ceux qui ne vous connaissent pas, 1,5 million d'abonnés sur votre chaîne YouTube, 2 millions suivent votre compte Instagram. Vous êtes aussi ce qu'on appelle une influenceuse, vous nous direz ce que vous pensez de ce terme. À 22 ans seulement, vous sortez votre premier livre chez Robert Laffont, qui n'est pas une petite maison d'édition. Ça s'appelle Toujours Plus et c'est sous-titré Plus égale Plus. Et pour donner une idée de votre surface médiatique, hier, le hashtag Toujours Plus était le 3e en France. Où est-ce que vous vous trouvez à l'instant où on se parle ?
Je suis chez moi.
D'accord, c'est pourquoi je vous pose la question.
À Paris.
Parce que vous mettez en scène votre propre vie. Cet été, par exemple, vous avez déménagé, vous avez fait des vidéos. La vidéo de recherche d'appartement qui a duré 23 minutes a été vue 1 million de fois. Ça ferait pleurer de joie Stéphane Plaza. C'est qui votre public ?
Mon public, en termes de tranche d'âge, à la majorité, c'est 18-24 ans. Donc je m'adresse à des gens qui ont mon âge la plupart du temps. Et puis après, ça divague vers les plus âgés, les plus jeunes. Je crois qu'il n'y a pas trop de règles pour se poser et regarder des vidéos devant YouTube.
C'est plutôt des filles. Ou moitié-moitié.
On est plus sur une moitié-moitié en ce moment.
D'accord. Et vous avez commencé à... Au départ, votre public, c'était plutôt les 13-17. Quand vous avez démarré à quel âge?
Moi, j'avais 16 ans, je crois. Attends, j'étais beaucoup plus âgée. J'avais 18 ans, 17-18 ans.
On vous a vu dans des émissions de télé et grand public comme Quotidien. À cause, j'en dis un mot, comme ça le sujet est évacué, une campagne sur Twitter. Et c'est assez rare pour être signalé, ouais. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Une campagne de haine, mais également une campagne de soutien dont vous parlez dans le livre Raconté.
C'est fou, c'était juste à la suite du confinement. Donc il faut quand même rappeler le contexte, parce que pendant le confinement, il y a une hausse de la haine folle sur Twitter. Ouais. Et à la suite de ça, je me suis retrouvée déconfinée et je suis partie faire un pique-nique, tout simplement. Mmh. Et j'ai fait une photo de ma tenue et je portais une petite robe décolletée blanche. Donc je poste ma tenue comme je le fais presque tous les jours, mais sans penser qu'on allait faire débat ou quoi que ce soit. Et le lendemain matin, je me réveille et j'ai une journaliste qui m'appelle et qui me dit « Léna, je t'en supplie, est-ce que je peux avoir l'exclusivité sur le hashtag Léna Challenge ?» Alors moi, je me réveille, je dis « De quoi tu me parles? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes ?»
Parce que ça vient pas de vous, évidemment.
Ça vient pas de moi. Moi, j'ai juste posté la photo de ma tenue. Et en fait, je me réveille et je vois que ça a pris une ampleur folle, puisqu'en fait, ma tenue a fait énormément jaser. On m'a beaucoup shamé sur la taille de ma poitrine, sur mon corps. On a eu du body shaming pur et dur.
Shamé, je vais dire un mot, ça veut dire mettre la honte. Mais ce qui est complètement dingue, qui moi m'a vraiment frappé, c'est que vous n'avez pas une tenue trop sexy, une trop grosse poitrine, trop dénudée, c'est même l'inverse. On vous reprochait presque d'être normal avec une petite poitrine.
Et quand bien même, c'est ce que je disais là, on me reproche moi d'avoir une petite poitrine, mais on reproche aussi aux femmes d'avoir une grosse poitrine, c'est considéré bien comme sûr. Vulgaire. Et si t'as des petits seins, bah c'est la honte. Mais si t'as une poitrine normale, t'es banale. Et si t'as les seins refaits, t'es pas naturel. Et c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas la taille de la poitrine ou ma tenue en elle-même. C'est que pourquoi des hommes se permettent de donner leur avis sur le corps d'une femme au point d'en faire toute une tendance sur Twitter, parce que tellement de personnes se sont retrouvées pour dire « Ah, regardez ces petits seins, c'est la honte », majoritairement des mecs. Et après aussi, à la grande déception, il y avait aussi des femmes qui ont participé au truc. Et toi, t'es en mode « Mais vous êtes ridicules, les enfants, qu'est-ce qu'on y fait ? J'ai des petits seins, d'accord. Vous n'êtes pas content, appelez Dame Nature, parce que moi, je ne peux rien y faire. »
On est d'accord avec vous. Vous dédiez d'ailleurs votre livre à tous vos abonnés. Je cite « Tous mes abonnés, ceux qui m'apprécient et m'acceptent comme je suis, mais également ceux qui me détestent. » Ça rappelle la formule ancienne de Thierry Ardisson qui disait « Chers amis, chers ennemis ». Pourquoi cibler les ennemis ? Pour rigoler ?
Ouais, c'est un pic rigolo. Mais le vrai livre, la vraie dédicace est dédiée à ceux qui me soutiennent depuis le début.
Évidemment. Question évidemment. Pourquoi un livre si jeune à 22 ans ? C'est l'éditeur qui est venu vous chercher ou c'est vous qui aviez envie ?
J'ai plusieurs éditeurs qui étaient venus me chercher parce que je suis pas du tout la première youtubeuse à faire un livre. Il y en a eu beaucoup avant moi et c'est un système qui a l'air de fonctionner puisqu'ils étaient venus chercher d'autres youtubeurs. Et puis moi à la base j'étais vraiment pas du tout cliente de ça. Je me disais non mais je suis pas du tout légitime pour faire ça. J'avais une idée d'agenda à la base. Je voulais faire un agenda avec énormément de conseils de développement personnel et je suis arrivée chez Robert Laffont avec cette idée là. Je leur développe tout mon truc et tout. Et ils me disent, mais t'es mignonne, mais t'es en train de nous faire un livre de développement personnel. Et parce que t'as peur d'en faire juste un livre, tu nous rajoutes des pages blanches avec la date écrite dessus. Ouais. Et ils m'ont accompagnée. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu peux en faire tout un livre. Et c'est comme ça que la collaboration a commencé avec eux.
Alors dans le livre que j'ai lu, je dois dire qu'il ne ressemble pas aux autres livres. Vous faites des choses iconoclastes, par exemple dès l'introduction, vous dites « Vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une biographie, j'ai que 22 ans » et vous dites « Pour ceux qui veulent lire une biographie intéressante, allez voir le livre de Michelle Obama, Devenir ». En l'occurrence, ce n'est pas chez Robert Laffont, c'est chez Fayard. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui recommande le livre de la maison d'en face. Et autre conseil que vous donnez…
Robert
Laffont non plus. Ouais. Mais il l'a laissé quand même. Autre conseil que vous donnez, se munir de ciseaux pour découper des pages du livre, pour les garder, pour les mettre quelque part ou les punaiser au mur. Là aussi, ça ne se fait pas, on ne découpe pas des livres.
Eh bien écoutez, je pense que c'est… complètement inconscient dans ma part quand j'ai construit le livre. Je l'ai construit de la même façon que je construis une vidéo, donc c'est très interactif et c'est difficile d'interagir avec du papier. Et c'est pour ça que j'ai voulu complètement déconstruire ce côté livre, parce que moi j'aime bien l'objet, je le trouve magnifique, mais j'aime bien cet objet que tu peux hyper personnaliser en fait, parce que surtout que le développement personnel c'est quelque chose qui est très subjectif et j'aime l'idée que les gens vont s'approprier certains passages, ils vont vouloir les surligner, les barrer, gribouiller, il y a pas mal d'exercices aussi, donc le but c'était vraiment qu'on puisse l'approprier et j'arrivais pas à faire autrement qu'en faisant des petits pictogrammes en disant vous inquiétez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce livre.
J'ai un stylo avec moi, je marque une toute petite pause et pendant ce temps, je vais gribouiller votre livre. Vous restez avec nous, Léna Situation. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Léna Situation, elle sort son premier livre. Vous allez me dire, à 22 ans, c'est peut-être un petit peu normal. Ça s'appelle Toujours Plus, c'est tout sous-titré Plus égale Plus. Et le positif attire le positif, alors qu'habituellement on pense que le positif attire le négatif. Et inversement, vous donnez des conseils, comme dans les livres de développement, mais c'est là où on se dit que l'époque est devenue très dure. Vous racontez votre adolescence, on n'a pas dû vivre la même, l'époque a changé. Vous dites, l'adolescence n'est pas une période facile, faire partie d'une bande ne m'a pas empêché de me faire harceler par les membres de cette même bande. Ils se moquaient de mes cheveux bouclés par exemple, et ça me blessait d'autant plus qu'ils étaient mes amis. Et là je suis tombé de ma chaise, comment est-ce possible? Quand on a des potes, ils nous soutiennent.
Ah bon, vous pensez que...
Bah, c'était comme ça de mon temps. Ça a changé alors. Ça a beaucoup changé.
C'est vrai, bah, parce que malheureusement, quand j'en parle avec mes potes ou plein de gens que je rencontre de ma génération et quand je lis ce qui se passe aussi aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé entre ma génération et la nouvelle. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de super universel et que le harcèlement, enfin, la méchanceté gratuite en tout cas dans la cour de récré, c'est le truc le plus banalisé au monde, je crois. Et oui, en effet, oui, je me faisais harceler, mais c'était... à l'époque, je ne considérais même pas ça comme du harcèlement, j'avais l'impression que c'était normal, parce que tout le monde avait ça, en fait.
Ouais. Et je l'ai dit, vous êtes une youtubeuse, quand vous postez une photo de vous sur les réseaux sociaux en lingerie, vous avez droit à beaucoup de remarques négatives de la part des garçons, mais ce qui m'a frappé, c'est également comme celle des filles, et voici votre réponse.
Vous commencez à me taper sur le système solaire, certaines personnes qui viennent dans mes DM, dans mes commentaires pour me dire que je suis une tepu ou peu importe les termes que vous utilisez pour rabaisser une femme qui poste une photo en lingerie, vous allez tous ouvrir la fenêtre et boire un grand verre d'eau parce que on est où là? On est où? Comment est-ce que c'est possible de recevoir des messages de nanas en plus qui viennent descendre d'autres nanas parce qu'elles s'affichent sur les réseaux sociaux?
Et oui, ce sont pas des gros machos sexistes. Comment vous expliquez ça?
Et là, c'était une photo en lingerie et c'était vraiment le coup de trop, mais c'est pas forcément ça, hein. Ça peut être une photo, je peux être en doudoune et ils vont forcément trouver quelque chose pour clasher la chose.
Non, je veux dire, ce qui m'a frappé dans cet extrait, la raison pour laquelle je l'ai passé, c'est pas que vous soyez fait clasher, c'est que vous êtes fait clasher par des filles. Normalement, les filles devraient défendre les filles.
Mais moi, je trouve ça complètement fou. Mais déjà, me faire insulter par des hommes parce que j'ai posté une photo en lingerie, je trouve ça fou. Mais alors, quand c'est des femmes, je comprends plus. En fait, je me dis, mais vous pensez pas qu'il faudrait qu'on se serre les coudes dans certains combats? Que ce soit le message, en fait, il est très simple, c'est laissez-nous faire ce qu'on veut. Et pas besoin d'être une femme ou d'être un homme, ou peu importe, pour penser ça. J'ai l'impression qu'on est quand même à la base de l'humanité. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, non?
Ouais. Vous donnez aussi 5 astuces pour venir à bout d'une crise d'angoisse. Et je me suis dit, tiens, mais Léna, situation, elle a des crises d'angoisse?
Ah oui, bien sûr, oui. Léna Situation, oui, bien sûr, elle a des crises d'angoisse, mais...
Non, vous voyez, vous êtes tellement pimpante, tellement fraîche, tellement souriante. On a l'impression que vous vivez une vie de rêve.
Non, mais je suis pas non plus un bisounours, hein. J'aimerais bien réussir à faire tout ça sans avoir les coups de stress, l'angoisse, la remise en question, etc. C'est vraiment le côté humain, et c'est comme ça qu'après, tu savoures encore plus tout ce qui est positif, c'est quand tu... Quand t'as eu les autres phases avant, comme ça, ça rend le truc beaucoup plus agréable. Une fois que t'as galéré pour l'avoir et qu'au final, tu l'as.
Et il y a un chapitre intitulé « Carrière et vie de couple » et vous écrivez ceci. « J'ai rencontré des hommes, écrivez-vous, qui n'aiment pas trop les femmes de pouvoir et d'argent, sans doute par éducation, par pression sociale, mais il me paraît hors de question de revoir mes ambitions à la baisse pour quelqu'un. » Et vous citez même la phrase « C'est ton boulot et moi, ton boulot ou moi. » Il y a beaucoup de mecs qui vous ont dit ça?
Ouais, malheureusement, ouais. Mais et c'est difficile parfois de leur en vouloir parce que j'avais l'impression qu'eux-mêmes ne se rendaient pas trop compte de pourquoi ils agissaient comme ça, mais que c'était juste la société qui faisait que l'homme devait ramener à la maison, s'occuper de sa femme, la chérir et payer le restaurant. Et que quand on essayait de comprendre un peu ce qui se passait dans le couple et qu'on se rendait compte que le problème, c'était ça, c'était difficile de mettre des mots. Eux, les hommes, n'arrivaient pas à mettre les mots sur ça. Et puis à la fin, ouais, je me suis dit, je crois qu'il y a un souci soit d'éducation, soit aussi de... À la base, quand tu grandis, t'as l'impression qu'il faut que ce soit l'homme qui ramène les sous à la maison. Et quand ça change, il y en a pour qui ça passe, il n'y a aucun souci, et puis il y en a pour qui c'est plus compliqué de déconstruire cette idée de l'homme qui vient soutenir ta famille. Alors que tu sais, on a 22 ans, quoi, c'est bon, t'inquiète pas, il n'y a pas de pression. Hein.
Voilà, et c'est aussi un livre d'empowerment. Je dis ça pour les mamans si elles veulent l'acheter à leurs filles. Dans un instant, notre premier indispensable avec Angèle Châtelier. Vous restez avec nous, Léna Situation. On va parler musique et Angèle va nous présenter son artiste coup de cœur. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de la youtubeuse et influenceuse Léna Situation, c'est son premier livre chez Robert Laffont. Ça s'appelle Toujours Plus, Plus égale Plus, c'est le sous-titre. Il y a plein de conseils pour aller bien. Il y a aussi votre bibliothèque du bonheur dans lequel on trouve, j'en ai parlé, Devenir, le livre de Michelle Obama, Le Prophète de Khalil Gibran. Également, La Magie du Rangement, c'est bien rangé chez vous ?
Oh là là, actuellement, non, pas du tout.
C'est vrai que ça me fait marrer.
Alors là, tu m'as mis un truc, j'ai paniqué. Non, non, là, c'est pas du tout rangé, au secours.
Il n'y a pas de caméra chez vous. Et il y a également votre playlist du bonheur, les sons pour avoir la pêche. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique pour avoir la pêche? Et est-ce que vous êtes très branché musique? Est-ce qu'il y en a du matin au soir chez vous? Comment ça se passe?
Ouais, musique du matin au soir, sinon ça ne fonctionne pas correctement.
Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment et c'est quoi votre playlist du bonheur? Je vous demande ça, je l'ai sous les yeux, hein.
Moi, je suis très playlist aléatoire. J'ai une playlist, je pense que c'est compliqué de la comprendre parce qu'il y a un petit peu de tout et n'importe quoi, mais j'aime bien me balader dans tous les univers.
Bon, bah justement, je pense que cet univers, vous le connaissez. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Philippe.
Avec vous, évidemment, on va parler de musique. Léna, je crois savoir que vous écoutez du Dua Lipa, c'est ça, du rap aussi?
Ouais.
Et elle, alors Léna, bonjour. Est-ce que ça vous arrive d'écouter des chansons tristes ou pas du tout?
Pas du tout.
Oh ouais, grave.
Alors, moi ici, les chansons tristes, sachez-le, c'est ma spécialité. Philippe le sait bien. Alors, ce que j'aime surtout, ce sont ces artistes qui arrivent à exprimer ce qui est pour moi l'innommable, l'amour. Alors, parmi eux, il y a Peter. Il vient de Montréal, mais il habite en France depuis plusieurs années. Alors, il y a d'abord eu ses deux premiers albums avec ses singles. Peter livre une nouvelle fois ses pensées obscures dans un nouvel album appelé Super Comédie, disponible aujourd'hui.
Peter parle encore d'amour dans cet album,
mais
j'imagine,
oui, on
Angèle.
On n'en fait jamais le tour, Philippe. Alors, son troisième album, c'est sans fin. Son troisième album est plus organique que ses précédents. La voix, elle est plus effacée, plus ambiante. Mais alors, lui n'a pas changé. Peter se questionne toujours autant, semble prendre l'amour intensément quand il s'offre à lui et le sublimer quand il est parti. Mais est-ce que finalement, Philippe, ce serait pas ça la sentence des personnes anxieuses et hypersensibles? En tout cas, ce n'est pas Peter qui dirait le contraire.
C'est vrai que moi, je fais un peu de la musique pour réconforter un certain point, parce que c'est comme ça que je consomme la musique. Beaucoup d'albums pour moi ont été là pour moi dans des moments où c'était difficile. Et ouais, j'ai tendance à me réfugier vers des artistes qui comprennent une certaine vulnérabilité humaine.
Ne prétendant plus
fois qu'on est anxieux, je pense que c'est quelque chose qui grandit avec l'âge. Dans mon cas, en tout cas, c'est ça. Je pense que ça a toujours été en moi. Voilà, c'est dans ma génétique, d'une certaine façon, je suis programmé à être comme ça. Et ça évolue comme à peu près n'importe quel soit des traits de caractère et tout. J'ai quand même espoir de savoir qu'on peut altérer ça d'une certaine façon et qu'on ne sera pas à jamais. Mais évidemment, c'est plus de travail que certaines personnes qui n'ont pas cette propension-là à être anxieux. C'est une saison sans le temps qui
passe. C'est une saison sans le temps. Ce nouvel album de Peter Peter s'est construit en 3 ans. Il y a d'abord eu un premier jet, tout était prêt en 3 mois, puis il en a jeté les 3/4 avant de prendre le temps de le sortir tel quel. Super comédie et donc à découvrir dès maintenant.
Donc 3 ans, 3 mois, 3/4, voilà. Léna Situation, une réaction en 3 secondes. Ça vous a touché, ça vous a plu, Peter God. Peter?
C'est moins ce que j'écoute au quotidien, mais c'est mignon.
C'est mignon, d'accord. C'est vrai que c'est ça, c'est mignon.
Bon, voilà. C'est agréable à écouter, ouais. Du miel un peu dans les oreilles.
Voilà, du miel. Et on écoute donc Peter Peter. Voici l'un de ses nouveaux titres, Conversation sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Léna Situation, la youtubeuse et influenceuse qui sort son premier livre, une sorte de guide pour aller mieux, ça s'appelle Toujours Plus, Plus égale Plus, c'est le sous-titre, c'est chez Robert Laffont. Plus égale Plus, ça parle pas de beurre ni d'huile, vous le parlez. Il n'y a pas de recette de cuisine dans votre livre, mais il y a un chapitre qui s'intitule ainsi, Je ne veux pas manger seul, point d'exclamation. Vous aimez ou vous aimez pas manger seul?
Aujourd'hui, j'adore ça, mais ouais. Il y a 5 ans, 6 ans, c'est très différent.
Parce que vous vous sentiez délaissé. C'était les losers qui mangeaient seuls, ouais, c'est comme ça qu'on le conçoit quand on est ado.
Exactement ça. Quand on est ado, manger à la cantine seul, c'est l'étape de la honte.
Voilà. Et vous aimez cuisiner ou pas?
J'essaye d'apprendre. Je viens d'emménager seul et je goûte à la vie d'adulte. C'est très dur, mais je fais au maximum pour arrêter de manger des pâtes tous les jours.
J'ai la bonne personne pour vous. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Léna Situation.
Grâce à vous, on arrête de manger des pâtes tous les jours. Oui. Et vous allez nous parler de Pierre Troisgros. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un monument de la gastronomie qui nous a quittés mercredi. Moi, j'avais retenu de lui le fameux saumon à l'oseille. Mais c'est également l'un des inventeurs de la nouvelle cuisine.
Oui, la nouvelle cuisine respectueuse du produit de saison. Philippe, plus digeste, avec des sauces allégées. C'est toute la bande de Bocuse, de Michel Guérard. Et c'est vrai qu'il était très copain avec Paul Bocuse. Ils avaient démarré tous les deux au Lucas Carton à Paris. Il a fait vraiment rayonner la cuisine française dans le monde. Tout le monde a entendu parler de Rohan dans la Loire grâce aux frères Troisgros avec son frère Jean qui a disparu en 1983. Et tous les deux, dès les années 50, ils avaient repris le bistrot familial pour en faire une adresse de la gastronomie connue dans le monde entier. Quoi.
Voilà. Et vous dites qu'il y a un fil conducteur, j'ignorais totalement, c'est l'acidité.
Ben oui, l'acidité effectivement de l'oseille. Dans le saumon à l'oseille, il y a l'acidité. Et l'acidité, c'était vraiment très important et c'est toujours très important aujourd'hui pour la maison Troisgros. C'est Michel, le fils, qui a repris avec le petit-fils de Pierre qui s'appelle César. Et l'acidité est toujours le fil conducteur de la maison Troisgros. Alors j'avais rencontré moi Pierre Troisgros il y a quelques années et il me disait que ça lui venait du goût de sa mère, ce goût de l'acidité, qui mettait des cornichons dans la blanquette. On mettait aussi une belle vinaigrette pour titiller le pied de cochon. Et il avait une très belle phrase, il disait l'acidité pour relancer le goût et éveiller l'esprit. Et c'est vrai que ça servait à ça. Et Pierre Troisgros, qui avait même ouvert des restaurants au Japon, quand il repartait du Japon en avion, les Japonais lui laissaient dans ses poches des petits sacs de gingembre confit au vinaigre qu'il mangeait comme ça dans l'avion pour faire le retour.
Donc, ça devait être cool d'être son voisin, tiens.
Alors, on peut faire un hommage à Pierre Troisgros ce week-end, si vous voulez, en cuisine, pour tout le monde, et même Léna Situation qui vient de s'installer toute seule pour faire cette recette. Je vous propose de faire une quiche au saumon à l'oseille en hommage à Pierre Troisgros et aux frères Troisgros, une belle pâte brisée. Vous achetez un beau pavé de saumon bio ou label rouge, vous le taillez finement en petites escalopes, vous achetez de l'oseille, on en trouve encore chez les maraîchers, vous la déchirez, vous mettez le saumon et l'oseille déchirés comme ça sur le fond de votre pâte brisée et par-dessus cette fameuse migaine propre à la quiche, des œufs battus avec de la crème et un peu d'échalote qui serait là aussi pour donner
migaine,
de l'acidité.
Vous dites
la migaine, c'est comme ça qu'on dit en Lorraine, c'est l'appareil de la quiche lorraine, c'est la migaine, c'est le mélange des œufs et de la crème, c'est tout Philippe.
Mais c'est pointu Léna, vous avez vu, on vous amène pas n'importe qui.
Non, c'est
pas
pointu.
Non, c'est des œufs et de la crème, il n'y a rien de pointu là-dedans. Et ce qui est un peu pointu, c'est le goût de l'échalote, effectivement, qui va donner de l'acidité. Et vous mettez ça, effectivement, par-dessus votre saumon et votre oseille, 45 minutes au four à 180 degrés. Et vous avez une quiche au saumon et à l'oseille ce week-end, par exemple, pour faire ripaille en famille ou entre amis.
Ouais. Ça se fait en plat unique, cette quiche?
Ah oui, c'est très bien en plat unique.
Une autre idée, Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'acidité ou un dessert?
Les gnocchis de la mémé. Mais pas n'importe quelle mémé, c'est la mémé Trois Gros aussi. C'est une recette que je tiens de Michel Trois Gros, le fils de Pierre. C'est vrai que la femme de Pierre avait des origines italiennes et il faisait tous les Noëls des gnocchis comme ça à la tomate, avec un coulis de tomate maison. On est encore en plein dans la saison des tomates. Vous faites des gnocchis avec un coulis de tomate et vous allez relever encore cette acidité de la tomate naturelle par du citron que vous mettrez dans ce coulis de tomates. Les gnocchis, vous pouvez les acheter déjà faits, ou alors vous pouvez les faire vous-même. Hein. C'est une purée de pommes de terre avec de la farine, du jaune d'œuf et du parmesan. Le petit truc, hein, c'est le petit truc de la famille Trois Gros, vous les mettez au congélateur avant de les pocher dans de l'eau bouillante pour qu'ils aient une belle tenue. Et ensuite, ces gnocchis, vous allez les nourrir avec ce coulis de tomates avec du citron. Ça aussi, elle peut faire, hein, Léna Situation, ce week-end.
Vous venez de me faire un coup de terrible parce que ma grand-mère était provençale, elle faisait elle-même les gnocchis et elle-même le coulis de tomates.
Ah ben voilà.
Demain, à la table des bons vivants, 11h, midi et demi sur Europe 1, il y aura quoi?
On va faire le tour de la tasse de café. C'est quoi un bon café? On va répondre à cette question, Philippe, et puis on va recevoir Antoine de Maximi. Vous savez, l'homme qui vient dormir chez
toi. Le gars qui vient dormir chez toi et qui te pique ton café.
Eh ben, il vient manger chez nous demain, voilà, justement, voilà. Parce qu'il sort un film très sympathique au cinéma. Voilà, c'est un beau
maraudeur. Merci beaucoup. Merci Laurent Mariotte, ça vous a tenté ces recettes, Léna, vous allez me dire ça juste après ça. Léna Situation avec nous pour la dernière partie de l'émission, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de la youtubeuse et influenceuse Léna Situation, on est ravis que vous soyez avec nous. Vous avez eu le temps de noter les recettes de Laurent Mariotte, est-ce que vous allez vous mettre à la quiche Lorraine?
Est-ce que j'ai le droit de vous mentir et de vous dire oui, bien sûr?
Ben voilà, ben vous venez de me répondre, donc vous n'allez pas le faire. Il vous arrive plein de choses et vous nous le racontez même dans l'émission. Il y a votre premier appartement. On a appris qu'en fait, ce n'était pas rangé, contrairement aux conseils que vous donnez aux gens de bien ranger chez eux. Et vous avez, on a trouvé ça sur YouTube, sur vos chaînes, vous avez pris conscience de quelque chose que vous n'aviez absolument pas vu venir, c'est la vie d'adulte.
Il y a plein de choses que je ne savais pas en arrivant dans la vie d'adulte. Toutes ces années d'école et je suis arrivée dans la vie d'adulte quand il fallait vraiment être responsable en mode... Je sais pas quoi faire. Macron, il devrait servir un petit manuel comme ça quand on arrive dans la vie d'adulte en mode tiens, ça c'est les bases, ça c'est comme ça qu'on fait une facture, ça c'est tes charges et l'URSSAF n'est pas égal aux impôts, etc.
Les factures, les impôts, les URSSAF, ça vous met dans quel état?
Ah mais c'est super dur et j'étais très sérieuse avec ce petit manuel. Je pense qu'il fallait, nous apprendre ça à l'école. Je suis arrivée, je savais pas que... tellement pas de choses.
Ouais. Et alors j'ai découvert ça en préparant cette interview.
Assurer son appartement.
Ouais.
Je suis tombée des nues, je dis mais comment ça, faut que je l'assure, c'est pas un humain, il va pas tomber malade mon appartement. Puis après j'ai compris tout ce qui se passait dans ce milieu là et du coup non, tout ça en fait c'est juste que c'est rude quoi, c'est que personne nous prépare à ça et que t'as l'impression qu'autour de toi tout le monde sait ce qu'il faut faire et que quand t'arrives dans ce milieu là de la vie d'adulte, tu te dis mais je suis la seule à pas savoir ou quoi, et puis après tu parles avec les gens et tu te rends compte qu'ils sont tout aussi perdus que toi.
Et en plus, vous auriez pu choisir la facilité. Par exemple, vous n'avez pas d'agent, contrairement à beaucoup de vos collègues, garçons ou filles. Pour quelle raison? Pourquoi vous n'avez pas d'agent?
J'ai décidé de garder moi ma liberté en tant que commerciale sur tout ce que je fais d'un côté plus business. Parce que déjà, j'adore tout le processus de mon travail, que ce soit la partie qui va commencer avec plus business, les négociations, et après la partie plus créative, quand il va falloir créer le contenu et tout. Et j'aime bien avoir ce processus complet. C'est quand c'est terminé, c'est une sorte d'aboutissement qui fait trop plaisir. Et puis aussi, c'est pour pouvoir garder une liberté sur tout ce que je peux produire. Parce qu'un agent, aussi sympa qu'il peut être, son travail, c'est de gagner de l'argent par rapport aux opérations que tu peux faire, les collaborations, etc. Et j'aime bien avoir cette liberté. C'est beaucoup plus de travail, mais je ne me suis jamais sentie aussi libre que quand je travaille seule, en fait.
Évidemment, et vous avez des partenaires prestigieux, Dior, Balmain, Canon, Disney, des marques de vêtements Jennifer. Pendant les émeutes contre la police aux États-Unis, vous avez reversé la monétisation de l'une de vos vidéos au mouvement Black Lives Matter. Pour quelle raison?
Pareil, je trouve que ça part de l'évidence et un peu à la base de tout ça. Et moi, j'ai surtout voulu... En fait, je crois que je me suis pris une claque aussi quand c'est arrivé. Je me suis rendu compte de l'influence qu'on pouvait avoir.
Je vais vous dire le sens. Pardonnez-moi de vous interrompre parce qu'il reste très peu de temps. J'ai bien compris pourquoi vous l'avez fait, mais il y a peu de gens qui s'engagent tout en sachant qu'ils soient moins bien payés. C'est ça qui a frappé.
Ah, mais c'est parce que c'est très difficile de s'engager et de parler de quelque chose sur les réseaux sociaux. Et du jour au lendemain, de passer de quelqu'un qui fait des vidéos dans sa chambre à avoir un peu de succès et de se rendre compte que les chiffres derrière l'ordinateur, ce sont des vraies personnes. Tout ça, c'est un processus assez long. Et une fois qu'on s'en rend compte, on se dit, ah, peut-être que mon influence, je peux l'aider à faire quelque chose d'autre.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre franchise, cet engagement. Léna Situation, le livre s'appelle Toujours Plus. C'est aux éditions Robert Laffont. C'est le premier. À mon avis, c'est pas le dernier. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. On sera avec Martin Veil, le journaliste, qui est de retour sur TMC pour une nouvelle enquête sur la crise chez les policiers. Puis l'écrivaine Tania de Montaigne pour sa pièce noire, pièce qu'elle reprend au théâtre du Rond-Point. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff et sa bande. Ça fait du bien. Merci encore, Léna Situation, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Très bonne journée, très bon week-end.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.